culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Roulement de tambour et bienvenue à tous dans ce 50e culte espoir. Aujourd'hui, nous fêtons avec toi un an de diffusion de ce format d'émission. Ce n'est pas rien. Alors, que tu nous suives depuis longtemps ou que tu viennes de nous découvrir, sois là le bienvenu. Avec moi aujourd'hui, dans notre studio, deux chroniqueurs, Amandine, Brian.
Bonjour.
Bonjour.
Partenaire de ce projet dès son origine, ce culte a également été préparé avec la collaboration de Marilyn, une autre de nos chroniqueuses arrivée en cours de route cette année, mais qui malheureusement n'a pas pu être là aujourd'hui avec nous.
Nous t'accueillons donc dans ce format spécial dans lequel nous allons voyager au fil des chroniques sur ces 49 émissions. Nous allons aussi réfléchir au fait que Dieu peut nous mettre en route comme il l'a fait avec Moïse au désert. Va, Dieu t'envoie. C'est donc le thème de notre culte aujourd'hui.
Je remercie Dieu qu'il nous a permis d'arriver jusqu'ici, de vivre ce que nous partageons avec toi chaque semaine. Et je lui confie ce moment, qu'il soit présent par son esprit avec nous ici, qu'il nous inspire et fasse résonner ses paroles dans chacun de nos cœurs. Comme tu viens de l'entendre, c'est notre 50e culte espoir. Cela fait un an que nous faisons vivre ensemble ce culte pour Dieu. Un an que nous préparons des chroniques Dieu dans ma semaine. Ce qui est pour nous chroniqueurs un défi, parce que nous voulons te présenter, cher auditeur, quelque chose d'authentique, de vrai, de vécu. Nous avons été amenés parfois à réfléchir sur l'état, la santé de notre vie spirituelle au quotidien. Cette chronique nous a poussés parfois à souhaiter renouveler notre vécu quotidien avec Dieu, nous ouvrir à de nouvelles expériences avec Dieu. Pour ma part, les témoignages de mes collègues chroniqueurs m'ont fait réfléchir, m'ont donné aussi envie de m'ouvrir à de nouvelles manières de vivre ma foi au quotidien. Alors j'aimerais vous proposer un tour de table pour partager un témoignage, une idée partagée dans une chronique Dieu dans ma semaine cette année qui t'a interpellé ou donner envie d'essayer. Alors, Brian, qu'est-ce que toi, tu aimerais partager ?
Alors, moi, j'ai le souvenir d'une chronique de Romina de janvier de cette année. Tu nous avais notamment évoqué ta lecture matinale du livre des Proverbes et cela t'a conduit à l'envie de rechercher plus Dieu, à méditer sur sa parole, etc. C'est vrai que pour ma part, c'est aussi l'un de mes livres préférés. Un livre rempli de sagesse. Chaque idée véhiculée, chaque phrase, chaque mot sont choisis avec soin. Découvrir un livre comme celui-là me permet de réfléchir sur notre condition humaine, comment agir avec l'autre, avec sa famille, en société. Et je confirme, Romina, plus tu lis ce livre, plus tu as envie de rechercher Dieu.
Ouais, t'as vu, c'est vraiment super. De mon côté, j'ai été curieuse d'une idée de Marina. Pour les fidèles de notre émission depuis le tout début, sincèrement, qui n'a pas été super captivé quand Marina nous a présenté en décembre 2020 le concept T-Notes ?
Ouais, clairement.
C'est un concept simple. Quand l'heure du thé devient un temps pour prier. Oui, ces thés qui sont accompagnés de versets bibliques. Marina avait témoigné d'un groupe de trois filles qui avaient créé ce projet afin que l'heure du thé, seule ou accompagnée, devienne un moment de prière, de méditation. Elle nous avait donc montré les différents coffrets qui existent. Je ne sais pas si vous vous rappelez.
Oui, tout à fait. Ouais.
J'étais tellement curieuse de ce concept que quelques jours plus tard, j'ai commandé pour essayer moi-même et j'atteste. J'ai vraiment passé des moments agréables avec Dieu, avec des textes forts qui m'ont encouragée, qui ont fortifié ma foi. Et bon, voilà, j'ai tellement apprécié cela que du coup, j'ai eu aussi envie de partager ça avec les autres. Donc, j'ai acheté pour offrir à ma famille, à des amis. Donc, grand merci à Marina pour cette découverte.
Marlene nous a partagé qu'elle a été touchée par une de tes chroniques, Amandine, dans laquelle tu as partagé avec authenticité et simplicité qu'il y a des moments où, malgré toutes les ressources que tu as, il y a des temps de creux, où ce que tu vis ne correspond pas forcément à ce que tu aspires à vivre avec Dieu. Et ça l'a touchée, parce que ça lui arrive aussi. Et elle a retenu cette prière simple où tu disais en gros à Dieu, « Seigneur, ce que je vis là avec toi n'est pas ce que je souhaite. Tu vois où j'en suis et j'ai besoin de toi. » Alors, il lui arrive, lorsqu'elle réalise qu'elle est embourbée, de repenser à ce partage et faire une prière similaire à Dieu. C'est comme rappeler à notre tête la direction que nous avons choisie et que nous voulons maintenir, alors que même que l'on ne voit pas comment, qu'on ne sent pas l'énergie, ni parfois la disposition.
Merci les amis pour vos retours, ça m'a replongé dans plein de souvenirs. Pour ma part, le 10 octobre dernier, pour le tout premier culte Espoir, Marina nous partageait qu'elle prie régulièrement pour l'actualité. Elle écoute la radio et prie sur un sujet d'actualité. Elle implique Dieu dans ce que vit sa région, son pays. J'avoue que c'est quelque chose que moi, je ne vivais pas du tout. Je me sentais trop petite et insignifiante, trop éloignée peut-être pour prier pour des sujets pareils. Et puis cela m'a fait réfléchir et j'ai commencé à essayer de le faire. Je dois encore explorer cette part de prière avec laquelle je me sens encore un peu gauche, mais ça a été pour moi une prise de conscience. Je crois que la prière est puissante, j'ai entendu de nombreux témoignages de comment la prière de chrétien a pu encourager, aider puissamment des personnes, même loin de nous, qui ne nous connaissaient pas. Je pense par exemple aux prières contre la torture et la peine de mort de l'ONG ACAT, où des personnes soutenues notamment par la prière ont senti vraiment ce soutien. Et je pense vraiment que si les chrétiens priaient davantage pour l'actualité, cela nous mettrait, en tout cas me mettrait certainement plus en marche et pourrait avoir un impact bien plus grand encore que notre présence actuelle dans le monde. Voilà. Et toi, cher auditeur, quel Dieu dans ma semaine t'a particulièrement interpellé ?
Pour la promesse du jour, j'aimerais t'emmener dans le livre des prophètes et du prophète Jérémie, au chapitre 29 et le verset 13. Il est dit « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » C'est intéressant, dans cette promesse, il est dit « Si vous me cherchez, vous me trouverez. » Ce n'est pas seulement l'idée de chercher comme on cherche une adresse sur un GPS, ou chercher des clés qui seraient perdues. Mais il est dit « si vous me cherchez de tout votre cœur ». Le mot utilisé en hébreu est « lebab », ce qui veut dire le cœur, mais aussi l'âme, l'esprit de l'homme. Mais ce mot fait aussi appel à l'intelligence, à la réflexion, à l'ardeur, à la volonté, à la détermination. Et Dieu, dans ce verset, te dit, en d'autres termes, qu'il voit ce que tu as au plus profond de ton cœur. Il te connaît. Si tu le recherches au plus profond de toi avec détermination, tu le trouveras. Et que cette promesse t'encourage à aller à sa rencontre.
Montre-moi la voie, dis-moi où aller. Tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, c'est qu'on ne peut fermer. Si tu es là, j'irai. Montre-moi la voie, dis-moi où aller. Où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, c'est qu'on ne peut fermer. Si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, ce qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds, où tu voudras j'irai. Tu voudras j'irai, me voici. Tu voudras Seigneur, me voici. Je veux faire ta volonté. Où tu voudras, j'irai.
C'était J'irai de Luc Dumont, qui nous invitait à quitter nos rivages afin de marcher là où Dieu veut nous guider. C'est beau comme parole. J'espère qu'on arrive à le vivre. Je vous laisse maintenant avec le groupe Madison, qui nous encourage encore à découvrir les choses de Dieu, qu'ils appellent dans cette chanson « Les choses d'en haut ».
Chercher par moi-même un sens à la vie. Je voulais que l'on m'aime pour ce que je suis. Je n'ai vu que des regards de haine, de désespoir. Oh, j'ai parcouru la terre, suivi d'autres danses, traversé des rivières, et dans mes errances, je suis trouvé un soir au point de départ. Oh, oh. Perdu et sans repère, j'entendais dans mes prières comme un appel à découvrir les choses d'en haut, prendre des ailes qu'il y a de plus beau. Ivre de ces images, j'ai troqué mon quotidien pour d'autres paysages et d'autres chemins. Je voulais que mon histoire ne suive pas le hasard. Oh, avait tant de colère. Je n'ai vu dans mes doutes que l'ombre des réverbères placés sur ma route, jusqu'à perdre l'espoir d'un nouveau départ. Oh, perdu dans le désert, j'ai perçu dans mes prières comme un appel à découvrir les choses d'en haut, prendre des ailes et frôler l'éternel, ce qu'il y a de plus beau.
Cette chronique Dieu agit, je voudrais partager avec vous le témoignage qui était tiré du magazine Adventist World du mois de février de cette année. C'est le témoignage de Lynette Alcock et je vous le lis. Je me sens nerveuse. C'est que j'ai une longue liste de choses à faire et on ne cesse de m'interrompre. En me rendant à mon bureau, j'aperçois une collègue qui me fait signe. Je l'écoute poliment, mais intérieurement. Je prépare un texte dont l'échéance est imminente. Finalement, je m'assis devant mon ordinateur et au moment où j'ouvre un document, mon téléphone me prévient par vibration de l'arrivée d'un message urgent. Une amie a besoin de parler. Ai-je quelques minutes ? Je pousse un soupir. Oui, enfin, je veux bien aider, mais en même temps... Je me demande si j'arriverai un jour à finir mes tâches. J'ai même écourté mon culte personnel ce matin, car je dois poursuivre ma journée de travail. Dieu a sûrement compris. Après tout, c'est pour lui que je travaille. Soudain, une douce pensée me vient à l'esprit et transperce mon irritation. Calme-toi. Considère ces déviations de tes plans comme étant des interruptions divines. Condamné, j'éteins mon ordinateur et je m'apprête à envoyer un texto à mon ami en difficulté. Et quelques versets bibliques me viennent alors à l'esprit. 1 Corinthiens 3:9 « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Et encore, 1 Corinthiens 3:9 « Et car nous sommes des collaborateurs de Dieu. » Ces idées me frappent. Et si l'intention de Dieu pour moi aujourd'hui allait au-delà de ma liste de choses à faire? Et s'il voulait que je travaille avec lui afin d'avoir un impact sur la vie de quelqu'un à ce moment précis? Alors un peu plus loin dans son témoignage, elle dit encore « C'est un défi pour moi, être attentive au plan de Dieu qui se déroule dans ma journée. Je ne veux pas faire la sourde oreille aux invitations de Dieu » sous prétexte que je suis accaparée par mes propres plans. Je vais être branchée sur Dieu au point d'accueillir ces interruptions divines au cours de la journée. Parfois, il y a des choses plus importantes que ma liste de choses à faire. Voilà le témoignage de Lynette. Je m'identifie pas mal. C'est vrai que souvent, les longues listes de choses à faire peuvent être un obstacle pour écouter Dieu, pour écouter son appel. Et oui, on parle d'appel aujourd'hui,
Et j'aime cette idée que l'appel de Dieu pour nous n'est pas toujours dans les grandes choses, dans les grands projets, mais c'est aussi dans les petites choses du quotidien. Et dans ce cas, c'était de se rendre disponible pour une amie qui était dans le besoin, quitte encore à retarder sa checklist. Et j'avoue que c'est un combat pour moi, personnel, et c'est pour ça que ce témoignage me parle, et c'est aussi pour ça que je le partage avec vous, parce que peut-être que vous vous identifiez aussi à ce qui lui arrivait à Lynette, et j'espère surtout que cela vous a encouragé. Et je vous invite en tout cas maintenant à écouter cette chanson de Chris Tomlin, « I will follow you », qui veut dire « Je te suivrai ». C'est une chanson que j'affecte particulièrement, car j'utilise en tant que prière pour dire à Dieu, voilà, je suis à 100% avec toi, où tu vas, j'irai. Et justement, je traduis cette chanson. Donc, il parle à Dieu. Où tu vas, j'irai. Où tu restes, je resterai. Quand tu bouges, je bougerai. Je te suivrai. Qui tu aimes, je vais aimer. Comme tu sers, je vais servir. Et si je perds cette vie, je te suivrai.
Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow.
Comme je te l'ai déjà dit dans les précédentes émissions, je suis assez friand d'histoires de personnages bibliques. Ces histoires nous racontent des épreuves, des joies, des souffrances vécues, mais par-dessus tout, elle montre le désir que Dieu a de vouloir tisser des liens profonds avec nous. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de Moïse. Alors, rares sont les personnes qui ne connaissent pas Moïse, au moins de nom. Moïse, c'est donc la libération des Israélites en Égypte. C'est les eaux de la mer Rouge que Dieu lui fait séparer en deux. C'est le décalogue, plus communément appelé les 10 commandements. Alors pourquoi j'ai envie de te parler de cette personne? Parce qu'avant d'être la figure que tout le monde connaît, Moïse a fait une rencontre qui a changé sa vie. On entend souvent dans le monde chrétien, Dieu m'a appelé à faire telle ou telle chose. On parle d'appel divin. C'est ce que Moïse semble avoir vécu. On retrouve cette histoire dans le livre d'Exode au chapitre 3 et je t'invite à te plonger au cœur de cette rencontre qu'il va faire avec Dieu. Et nous allons voir comment celle-ci peut résonner aussi pour nous aujourd'hui. Dans l'enfance et jusqu'à ce qu'il devienne jeune homme, au chapitre 2 de l'Exode, on s'aperçoit que Moïse reçoit une double éducation de cultures différentes, donc celle des Israélites d'un côté et celle des Égyptiens. Devenu adulte, il voit comment le peuple d'Israël est traité par les Égyptiens. Alors, travail de dur labeur, sous le soleil accablant et rythmé par des coups de fouet. Une situation tellement insoutenable que Moïse tue un contremaître égyptien qui frappait un Hébreu. Suite à son acte, il fuit le plus loin possible. Et bien des années plus tard, on le retrouve. Il a reconstruit une vie dans laquelle il se sent en sécurité. Il est tranquille, loin de son passé. Et pourtant, dans Exode chapitre 3 et le verset 1,
Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, qui était prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et arriva à la montagne de Dieu, à l'Horeb.
Moïse mène son troupeau au-delà du désert. Que cherchait-il? Est-ce qu'il cherchait de verts pâturages dans des lieux qu'il avait entendu parler? Faisait-il du hors-piste? En tout cas, son itinéraire le conduit à une montagne, la montagne de Dieu, l'Horeb. Dans le livre de Richard Lehmann, La foi de Moïse, il dit que la montagne prendra ce nom qu'après que Dieu lui aura parlé. Le rédacteur s'exprime de manière anachronique, mais son intention est claire. Il veut dire que Moïse se rend à cette montagne parce que ce qu'il cherche, ce n'est pas tant un vert pâturage pour son troupeau, mais Dieu lui-même. Il arrive pour faire paître son troupeau à la montagne de Dieu. Pensait-il un instant qu'il allait se retrouver en face de Dieu, que Dieu l'attendait? J'ai entendu tellement de témoignages de personnes qui avaient leur vie bien calée, dans laquelle ils semblaient ne manquer de rien. Parmi ces témoignages, parfois aussi un passé douloureux, enfoui, qu'on ne veut résoudre. Et au milieu de cette vie, un manque indéfinissable de quelque chose qui est caché au plus profond et qui est recherché sans vraiment savoir quoi. Ce manque, ce quelque chose, c'est mon ami, c'est Dieu. Et dans le verset 2, à partir du verset 2 et le verset 6.
Le messager du Seigneur lui apparut dans un feu flamboyant du milieu d'un buisson. Moïse vit que le buisson était en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, « Je vais faire un détour pour voir ce phénomène extraordinaire. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir. Alors Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Je suis là. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sacrée. » Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se détourna car il avait peur de diriger ses regards vers Dieu.
Moïse s'attendait à faire paître son troupeau. Il se retrouve en présence d'un fait surnaturel, un buisson qui brûle sans se consumer. Alors remettons-nous dans le contexte. Un buisson qui brûle dans le désert, je pense que Moïse en avait déjà vu un et pas qu'un seul. Mais là, il ne s'en consume pas. C'est là la première manifestation de Dieu à Moïse. Une manifestation quelque peu ordinaire. Dieu se manifeste dans un feu flamboyant, dit le texte. Ça devait être impressionnant. Mais c'est un feu qui ne se consume pas. qui n'est pas destructeur, qui préserve la vie dans sa présence. Notons qu'à l'époque, l'une des démonstrations les plus fortes de la présence divine est la maîtrise des éléments, l'eau, le feu, la nature, etc. En se manifestant de cette façon à Moïse, il montre qu'il est le maître des éléments et donc divin. Cette présence divine l'arrête dans sa marche, lui fait stopper son activité initiale, l'amène à s'attarder, à vouloir voir de plus près ce qui se passe et à faire un détour. La présence de Dieu nous appelle à nous arrêter dans la routine de notre vie, à nous mettre en hors-piste, sortir de notre trajet initial, changer de routine, de regarder avec précision ce que nous voyons tous les jours et qui peut nous sembler anodin, de changer d'angle. Dans une société où l'on te trace un chemin bien linéaire, études, mariage, enfants, maison, petit chien, serait-il pertinent de prendre un temps pour rechercher Dieu? Le Seigneur l'appelle. Moïse, Moïse! Il l'appelle par son nom. Dieu le connaît, le voit. Il sait ce qu'il a vécu. Il sait ce qu'il a fait. Il connaît aussi son passé. Et il sait ce qu'il a laissé derrière lui. Et il vient à sa rencontre. La présence de Dieu au cœur de l'être humain est une force, une puissance qui donne de la chaleur, qui va intriguer, qui va attirer les autres. Dieu au cœur de notre être sans nous consumer, sans détruire ce que nous sommes. Car Dieu nous aime. Il nous accueille tel que nous sommes, tel que tu es. Eh oui, Dieu te connaît. Il connaît ton histoire, ce qui est connu, ce qui est caché, et il t'appelle par ton nom car il veut te rencontrer personnellement. J'ai envie de t'encourager, si tu ne te sens pas digne d'être appelé par ton nom, par Dieu, quelles que soient les choses que tu as faites, dont tu te sens coupable, Dieu ne cesse de t'appeler. Il a ce feu pour toi. Ensuite, au verset 5, Dieu lui dit d'ôter son sandale, car il se trouve dans un lieu sacré. Dieu fait comprendre à Moïse qu'il est en présence de pas n'importe qui. Dieu veut que Moïse reconnaisse que le moment qu'ils sont en train de vivre est important. Il veut vivre ce moment sacré avec Moïse. Un moment où Moïse va découvrir quel est le Dieu qui lui parle. Je t'ai déjà parlé plusieurs fois de Alain Auderset, qui lui vit ces moments de feu flamboyant dans la forêt, ou encore de Bob Sorge qui a écrit tout un livre qui parle de la richesse de créer un espace dans ta vie pour avoir cette connexion avec Dieu. Et bien là, c'est le même principe. Cher auditeur, Dieu est un Dieu de relation intime et il veut se révéler à toi. Il veut passer un sacré bon moment avec toi pour reprendre l'expression. C'est son désir le plus cher. Es-tu prêt à ôter tes sandales pour marcher dans sa présence? Dieu continue sa présentation en indiquant qu'il est le Dieu de son père, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En disant cela, Moïse comprend la référence tout de suite. Je vous rappelle qu'il a une partie de son éducation qui est juive, donc Abraham, Isaac et Jacob sont des patriarches du peuple juif que Moïse connaît. Et en se présentant ainsi, Dieu révèle un autre aspect de qui il est, le Dieu d'Israël. Mais il révèle aussi une partie de qui est Moïse, un membre de ce peuple. Il s'inscrit dans une lignée, dans un héritage, dans une histoire. La rencontre avec Dieu nous inscrit dans une histoire. L'histoire de Dieu avec son peuple, avec ses enfants. Moïse comprend qu'il est en présence du Dieu de ses ancêtres et il est dit dans le texte qu'il se cache le visage. Il a peur de le regarder en face. On a déjà vu ses enfants qui se cachent le visage quand ils voient une scène d'horreur dans un film. Mais là, c'était un adulte, c'était intense. Peut-être avait-il peur de la façon dont il allait être perçu. Nous rappelons-nous qu'il a déjà tué un Égyptien. Peut-être se disait-il, si Dieu me voit tel que je suis, il me rejettera. Peut-être avait-il peur d'être puni. Le texte ne nous le dit pas. Mais Dieu a un tout autre objectif pour lui.
Le Seigneur dit, « J'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses tyrans. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel, là où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Périsites, les Hivites et les Jébusites. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que les Égyptiens leur font subir.
Ok. Dieu ne lui parle pas de son passé, pas de culpabilité, pas de punition. Dieu a un plan, il a même un double plan. Dieu lui parle de la situation de son peuple, il le voit souffrir et veut le libérer. Super bonne nouvelle, Dieu est un Dieu qui voit, qui entend, c'est un Dieu qui connaît, qui reconnaît les souffrances de son peuple. Oui, Dieu reconnaît les souffrances humaines. Mais en plus de cela, Dieu lui-même va libérer les frères de Moïse, son peuple. Détenu en esclavage après tant de temps, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob se révélera comme un Dieu qui libère, un Dieu qui sauve même dans une situation désespérée. Et à travers son plan pour sauver son peuple, c'est aussi Moïse qu'il va sauver, qu'il va soigner, qu'il va guérir de ses blessures passées et de sa culpabilité. Cher auditeur, Dieu est sensible à la condition humaine. Il te voit quand tu agis, il t'entend quand tu parles, il connaît tes souffrances que tu traverses et il veut t'en libérer, il veut t'en sauver. C'est lui l'auteur de ton sauvetage, mais ce n'est pas toujours le type et la forme de sauvetage à laquelle on s'attend.
Maintenant, va, je t'envoie auprès du Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites.
Quoi ? Attends. Tu viens de dire que c'est toi qui allais libérer le peuple d'Israélite de ta main, et puis là, c'est moi qui dois y aller. Alors là, la douche froide pour Moïse. Dieu sait que Moïse n'est pas indifférent à cette situation, mais de là à le renvoyer dans ce lieu qui lui évoque tant de mauvais souvenirs, surtout que bon, y aller tout seul, c'est quand même un peu léger. Parfois, quand je vois une réponse de Dieu, ce n'est pas forcément la manière dont je m'imaginais à la base. C'est parfois bien au-delà de ce que j'espère. Dieu, plein de surprises, nous fait sortir de nos schémas de conception parfois trop cubiques afin d'élargir notre vision, ouvrir à plus de possibilités où l'impossible devient possible.
Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller auprès du Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. » Et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne.
Moïse se demande quelle est sa légitimité, au moins à deux niveaux. Premièrement, quelle est la légitimité de Moïse d'aller auprès du Pharaon pour lui parler ? Il n'est plus à la cour du roi, il n'est pas figure d'autorité, pas responsable, à part de son bétail. Et deuxièmement, quelle est la légitimité qu'il a de représenter le peuple d'Israël qu'il a quitté depuis belle lurette. Cela fait tant d'années qu'il est parti. Comment le peuple d'Israël prendrait la chose ? Mais Dieu va chercher Moïse pour lui parler de ce qu'il a mis derrière lui, un peu comme pour dire « Cette fois, ce n'est pas à ta manière, ni avec tes propres forces, mais à ma manière, ensemble, avec mes forces, que nous allons sauver le peuple. » Lorsque Moïse s'est révolté contre la violence égyptienne, la cause, elle était juste, mais pas la manière de faire. Ce n'est pas toi tout seul avec tes propres forces et tes solutions humaines, mais avec Dieu. Moïse va devoir revenir sur le lieu de sa jeunesse et de ses erreurs. Mais la grosse différence, c'est qu'il accepte. Il accepte Dieu. Dieu, en lui donnant cette mission, va restaurer Moïse de ses blessures liées à son passé, de sa culpabilité, de sa légitimité d'œuvrer pour le Dieu de la vie. Il en est de même pour ta vie. Dieu veut te restaurer, il veut te fortifier, te soutenir, il veut te donner cette légitimité d'œuvrer à son service. Au verset 12, il dit cette promesse, « Je serai avec toi ». Dieu qui te voit, qui t'entend, qui te reconnaît, qui te connaît par ton nom, reconnais tes souffrances. Dieu libérateur, le Dieu qui maîtrise les éléments, le Dieu qui te sauve, te dit cette promesse, « Je serai avec toi ». Il y a quelques semaines, j'ai écouté une prédication de Patrick Bonhomme intitulée « Le meilleur est à venir ». Et dans son message, il y a une phrase qui m'a interpellé. Il disait que « La bénédiction que Dieu te donne n'est jamais que pour toi. Elle est aussi pour ceux et celles qui t'entourent. Moïse, dans son appel, sa relation avec Dieu, vit cette bénédiction. Dieu lui propose le chemin de la restauration, de le libérer de son Égypte qui lui voilait la légitimité de servir Dieu. Et cette bénédiction sera gigantesque parce qu'elle va s'étendre sur le peuple d'Israël. La libération, la délivrance, cette délivrance permettra de se rapprocher de Dieu et d'apprendre à le connaître. Cher auditeur, Dieu t'appelle, il te connaît bien. Si tu le cherches, lui, il t'attend déjà. Il t'invite à passer du temps avec lui dans sa présence. Es-tu prêt? Es-tu prêt à répondre à son appel? Essaye, ça vaut le coup. Da, da, da. Da, da.
Oh. Si Dieu m'a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, percer les vers. Oh oui, percer les vers. Percer les vers. Percer les vers. Percer les vers. Car sa parole, elle s'accomplira. Oh, oh, la, la. Oh. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternel. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. La chose arrive quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, 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 persévère, persévère. S'accomplira.
Je nous invite à prier. Cette année, nous avons pu vivre différentes manières de prier, à travers la prière d'un d'entre nous, à travers un chant, en silence, sur une musique instrumentale, par un poème ou la lecture d'une prière écrite. Je vous propose une prière tour de table. Chaque chroniqueur va pouvoir exprimer quelque chose dans cette prière commune sur un fond musical. Je laisserai après Romina un temps de pause pour que toi, auditeur, auditrice, puisses prier à ton tour, puis je conclurai.
Seigneur, merci de nous donner le privilège de témoigner de ce que tu fais dans nos vies. Merci pour toutes les personnes qui œuvrent pour le bon fonctionnement de cette radio, les techniciens, les responsables, les intervenants, les chroniqueurs. Je te confie les auditeurs, je te confie leur vie avec tout ce que cela implique. Dieu, merci parce que tu es le Dieu de paix, d'amour et d'espérance.
Seigneur, quand nous sommes ici autour de cette table, je sens tellement de reconnaissance pour qui tu es, pour ce que tu as déjà fait pour nous, pour aussi cette radio, pour les temps passés, les belles paroles que nous avons entendues, les témoignages de toutes ces merveilles, tous ces miracles, pour ces promesses qui fortifient notre foi, qui nous redonnent espoir, qui nous encouragent. Je te remercie Seigneur parce que tu es vraiment un Dieu grand et nous avons envie de te louer. Mais voilà Seigneur, c'est vrai que parfois il peut y avoir des moments de découragement, des moments où voilà, on entend des beaux témoignages mais on ne les vit pas et on se sent peut-être un peu différent. Et voilà Seigneur, j'aimerais te prier que tu puisses nous bénir et aider aussi ceux qui se ressentent comme ça, qui se sentent découragés. Que Seigneur, tu puisses leur continuer à parler, à toucher à chaque instant.
Seigneur, j'ai envie de dire à quel point tu es bon, à quel point tu es grand, à quel point tu es fidèle. J'aimerais élever ton nom, dire que tu es merveilleux, que tu es Seigneur des Seigneurs, que tu es trois fois saint, que tu es notre berger, que tu es notre ami, notre confident, notre papa, notre maman. Seigneur, j'ai envie d'élever ton nom, dire que tu es un Dieu merveilleux. Je suis infiniment reconnaissante que tu veuilles vivre avec nous. Et je te confie toutes nos vies, celles de nos auditeurs, de nos chroniqueurs, que nous puissions répondre à ton appel, Seigneur, et te laisser pleinement prendre ta place dans nos vies. Gloire à toi, Seigneur. Amen.
Amen.
Lors de l'été 2020, Marina, Mildred et moi-même, nous sommes assises autour d'une table pour imaginer ce culte, construire son identité. C'est l'appel que nous avions reçu de Dieu par l'intermédiaire de Jérémy O'Haraud, de participer à la création de ce projet de culte espoir qui nous avait réunis, un appel qui nous avait mis en action. Une fois qu'on avait dit oui, fallait créer, parce que la présence de Dieu dans nos vies nous met en marche, nous avons eu envie de finir le culte systématiquement par une mise en pratique de ce que nous avions pu échanger pendant le culte. C'est ainsi qu'est née la chronique Action. Alors, nous avons eu de nombreuses suggestions de mise en pratique cette année. Et tout comme pour la chronique Dieu dans ma semaine, je suis curieuse de savoir quelle a été une des mises en action que nous, les chroniqueurs, avons pu vivre. Et puis toi, cher auditeur, je t'invite aussi à réfléchir aux actions que tu as pu vivre cette année en suivant ces cultes espoirs. Alors, brillant.
Alors, effectivement, cette chronique action était pour moi un moteur pour la semaine. Et une des actions que j'ai appréciées le plus, c'est de noter les promesses de Dieu. Alors, c'était soit sur un calepin, soit sur un carnet, ce qu'on veut. Et moi, je le mets sur mon téléphone, dans le bloc-notes de mon téléphone. Donc, noter les promesses de Dieu sur mon téléphone. Et cela me permet vraiment, quand tu recopies, de t'imprégner et de pouvoir après réfléchir sur le verset et vraiment de vivre avec ces promesses d'espérance, de force, de victoire et de vie me rassure et me fait vraiment du bien. Quoi.
Mais du coup, tu les consultes.
Du coup, je les consulte et je les relis régulièrement. Et voilà. Et cette chronique, d'ailleurs, c'est toi qui nous l'as suggéré, Amandine.
C'est juste.
Cher auditeur, dans cette idée, il y a aussi l'application The Bib qui regorge de versets classés par thème qui pourront t'accompagner dans ton quotidien et voilà, te faire vivre avec des versets et des promesses de Dieu.
Alors moi, le 22 mai dernier, nous recevions Thierry Lenoir pour parler de la joie. Et j'avais partagé pour la chronique action de ce culte le défi relevé par Anne Voskamp de faire la liste des cadeaux, des merci trouvés pendant la semaine. À l'époque, j'avais donc testé l'exercice pendant 15 jours. J'avais fait la liste de 61 cadeaux et j'ai décidé de continuer l'exercice. Bon, pas facile car j'ai traversé ces derniers mois des moments où c'était un vrai challenge d'adopter ce regard positif sur ma vie, sur ce qui m'entoure. Et aujourd'hui, j'en suis à 350 cadeaux. Wow. Et je suis sûre d'en avoir loupé plein. Et j'ai bien envie de continuer parce qu'en effet, hein, c'est une vraie bénédiction, un sujet de joie que d'adopter ce regard sur ma vie. Et c'est rendre justice à Dieu aussi, qui est bon et qui est fidèle.
Je te comprends, Amandine, vraiment. Je pense que la joie est très liée à la reconnaissance. Et pendant toute cette année de culte espoir, j'ai été particulièrement sensibilisée à cette question de la reconnaissance. Je cite notamment Mildred dans sa chronique Action du 19 décembre 2020. Elle dit « Je te propose d'être reconnaissant. Oui, soyons reconnaissants à Dieu pour ce que nous sommes et pour tout ce que nous avons. Je sais que nous avons souvent besoin de plein de choses et que souvent nous demandons à Dieu d'accomplir nos souhaits. Mais cette fois-ci, je te propose d'être reconnaissant et juste remercier Dieu en toutes choses. » Et du coup, voilà, ça c'était ce que Mildred disait. Et depuis, parfois, je m'arrête juste pour remercier Dieu si quelque chose que je suis en train de vivre m'interpelle, me touche. Ça peut être un beau coucher de soleil. Cela peut être juste tout à l'heure quand j'ai prié, on était autour de cette table. C'est vraiment un élan de reconnaissance. Et voilà, j'essaye de, de le vivre vraiment. Et voilà, j'ai lu que la reconnaissance est très bonne pour la santé mentale. Donc, je compte garder toujours mon cœur reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait et fera dans ma vie et dans la vie de ceux qui m'entourent.
Alors, Marilyn me partageait qu'elle, c'est lors d'un culte aussi de Thierry Lenoir, Halte au combat impossible en mai, où tu avais proposé, Romina, de noter pendant 10 jours une qualité par jour sur un post-it à afficher et à offrir une prière de reconnaissance. On continue avec la reconnaissance, décidément, à Dieu sur ce sujet. Pas toujours facile ce défi, me disait-elle, mais elle s'est inspirée de cette action pour noter ce que Dieu dit d'elle. Elle a laissé ses post-it sur sa fenêtre. Moi, perso, je les ai mis sur le miroir dans ma chambre. Et les voir l'a aidé beaucoup à se rappeler de ces belles choses. Voilà, et toi, cher auditeur, chère auditrice, quelle idée d'action t'a mis en action, justement ?
voilà que notre 50e culte touche à sa fin. Nous espérons que ce petit moment vous aura rappelé quelques beaux partages de ces derniers mois, ou peut-être vous donner envie d'aller découvrir un peu plus. En tout cas, ce fut un plaisir de vivre ce moment avec vous, brillant Amandine. Merci en tout cas pour la réalisation du programme, pour vos anecdotes, vos partages.
Nous avions à cœur de prendre un temps pendant cette émission pour remercier les différents intervenants réguliers ou occasionnels qui ont rendu ces moments possibles. Nous avons déjà commencé dans le temps de prière en remerciant Dieu pour plusieurs de ces personnes. Nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu pour chacun d'entre vous.
Oui, un grand merci à Jérémy, que je suis en train de regarder, là, notre technicien qui a eu l'idée de monter une équipe pour ce projet. Merci pour cette opportunité. Merci également pour les heures que tu consacres en préparation de la technique, les jours d'enregistrement, les montages, les réunions de bilan, tes retours, suggestions en toute bienveillance, la gestion des diffusions, des podcasts sur Espoir Radio, etc. etc.
Merci.
Un immense merci.
Merci.
Merci aussi aux chroniqueurs réguliers, occasionnels. Merci vraiment à chacun de vous pour ces idées, vos défis, les promesses, les expériences partagées aussi au fil des cultes. Nous avons vraiment une pensée particulière pour Marina et Juliana, pour leur engagement depuis le début. Voilà, elles vont nous laisser un moment, mais nous les remercions de tout cœur pour ces heures passées pendant un an à préparer et à vivre ces moments avec nous.
Merci. Merci à tous ces invités qui sont prêtés à l'exercice de cette émission, qui nous ont proposé d'explorer des thèmes très variés. Vous nous avez mis au défi de fouiller ces thèmes et nous avons été enrichis, ainsi que les auditeurs.
Oui. Merci à chacun de vous qui avez accepté de partager un bout de votre vie, un témoignage dans une de ces émissions. Plusieurs sont auditeurs des cultes Espoir, je crois. C'est pas toujours facile à faire, mais c'est encourageant et inspirant à écouter. Merci beaucoup.
Et ce n'est pas fini. Merci à l'équipe d'Espoir Média qui nous donne également la possibilité d'être visible en ligne sur YouTube. Un grand merci aux monteurs, aux correcteurs pour vos heures de travail. Mm-hmm.
Et enfin, merci à notre Dieu qui a permis à chacun de mener à bien ses aventures, à donner de l'inspiration, à être fidèle dans chacune de nos vies de façon différente. C'est ce que Dieu nous appelle chacun, nous met au défi et surtout les relève avec nous.
Alors oui, les cultes continuent avec à la clé de belles rencontres, de nouveaux partages. Merci à toi, auditeur, qui nous suit depuis longtemps, qui partage ces messages et qui transmet tes retours de différentes manières via le site Espoir Radio, via YouTube. Que ces moments continuent d'être pour toi une source d'encouragement dans ta marche avec Dieu, une boîte à outils pour ta foi, c'est ce que nous souhaitons.
Ah bah, et nous te donnons rendez-vous la semaine prochaine pour terminer une série de messages avec Gabriel Saint-Périot. Nous comptons avec vous. Bye bye.
Bye.
Salut.
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.